Alors, aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « Sois sans crainte ». C'est le message que le prophète nous donne. Hein, dans... Ce n'est pas moi qui ai inventé, c'est Esaïe. Hein. C'est Dieu, plutôt. Avec les enfants, en ce moment, on regarde un feuilleton à la maison qui parle, justement, c'est pas exprès, je pense pas, mais nous avons vu que il montre deux grands moyens dans le monde pour vaincre la peur. Et ces deux moyens, en fait, ce qui est intéressant, même dans le programme, dans le feuilleton, c'est que ça montre même les failles de ces deux stratégies. Première stratégie, c'est surmonter la peur par agression. Aller de l'avant, prendre les choses en main, vaincre les peurs, faire semblant que si vous ne l'avez pas. Mais le grand problème, c'est que ça crée beaucoup de dégâts. Ça écrase des personnes, parfois. Et l'autre, c'est une approche beaucoup plus zen, avec beaucoup de platitude, qui essaie quelque part de survoler le problème avec un esprit dans les hauteurs. Mais le problème là, c'est que très souvent, on ignore les problèmes de base. Et puis, on arrive à formuler des bonnes phrases qui nous inspirent, certes, mais sans de fond nécessaire. Finalement, ça manque. Et dans l'émission, on a vu ça aussi, ce qui était bien pour les conversations autour de la table. Mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que dans notre monde, ça existe aussi. Il y a beaucoup de peurs qui circulent dans notre monde. Hein. Ça, on remarque. Même dans notre église, il y a des gens qui ne reviennent pas par la peur. La peur n'est pas juste une chose du monde, c'est partout. Hein. Parce qu'il y a pandémie qui est réelle, parce qu'il y a des diverses menaces qui sont plus ou moins réelles. Certains vont faire face en prenant les choses en main, une espèce d'agression, d'autres par des platitudes. Mais avec l'un et l'autre encore, ça n'arrive pas à toucher le fond du problème. Pas comme l'évangile touche le fond du problème, parce que l'évangile seul change le cœur. Et si on change le cœur humain, il y a quelque chose qui se transforme en nous, et justement ça touche cette partie de nous-mêmes qui a tendance à la peur. C'est pour cela que Dieu dit « Sois sans crainte ». Le nombre de fois que Dieu dit souvent dans sa Bible, c'est « Sois sans crainte », sachant que l'évangile est le centre de ce qui est enseigné dans cette Bible. Nous savons que l'évangile est c'est la meilleure solution à la peur. Ou autrement dit, nous voyons en 1 Jean, l'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait se trouve au sein de l'évangile. Alors, pour notre passage, nous verrons que Dieu soulage les craintes d'Israël, d'abord par sa présence, deuxièmement, en partageant leur avenir, et puis troisièmement, il demande de lâcher leurs craintes parce qu'il est lui-même le garant de toutes ses promesses. D'abord, il dit « Sois sans crainte, je suis avec toi ». Je vais lire Esaïe 43, les versets 1 à 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé au Jacob, c'est lui qui t'a formé au Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te consumera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie, Séba, à ta place. Du fait que tu as du prix à mes yeux, du fait que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Israël est connu de Dieu. On remarque justement dans la tendresse de ces illustrations, il parle d'être comme leur créateur. Il est celui qui les a formés. Et lorsqu'on parle de former, on pense déjà aux mains, comme les mains d'un potier. Et toute cette intimité, les mains qui touchent la boue et comment justement il forme le sculpteur, le potier, qui a envisagé son œuvre et par ses mains, il les a formés. Et donc, c'est ainsi qu'il est console, par sa présence, parce qu'il est là aussi présent. Et pourquoi est-ce qu'il est si proche? Parce qu'ils lui appartiennent. Israël appartient à Dieu. Il exprime son amour. Il dit « Je t'aime. Je suis ton sauveur. » En plus, il les rachète. Et nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous sommes rachetés. Mais Dieu parle d'une manière qui est tout à fait étonnante. Il paie la rançon pour leur rachat. Même si c'était leur faute qu'ils soient dans cette circonstance, même s'ils sont éloignés à cause de leur péché, malgré les apparences, malgré même les circonstances dans lesquelles ils se trouvent, sachant même que c'est leur faute, Dieu confirme sa relation avec eux, son intention de les sauver et de les garder en sa présence. Il les console par sa présence. Israël est connu de Dieu. Et il les accompagne. Les fleuves peuvent parler de deux événements historiques. Cette manière de parler des fleuves, et puis aussi, ils ne vont pas te submerger. Et puis, il amplifie l'idée avec le feu et les flammes. L'idée à laquelle on pense, c'est deux événements historiques majeurs où l'Éternel a accompagné son peuple en traversant les fleuves. D'abord en Exode 14, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, et en Josué 3, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour entrer dans la terre sainte, la terre promise. La traversée de la mer Rouge, Dieu les a accompagnés en les délivrant même de leurs ennemis par les mêmes eaux qui les libèrent. Ce sont les mêmes eaux par lesquelles ils enlèvent leurs ennemis pour qu'ils puissent marcher tout près de lui. Lui qui les couvre du soleil frappant pendant le jour et qui les chauffe par des colonnes de feu le soir. Il est tout près. Ou bien, lorsqu'ils entrent dans cette terre promise, tant attendue, il les accompagne. Cette réalisation, enfin, de leur espoir et de leur relation renouvelée. Israël, même si tu traverses des choses qui te semblent pareilles, même lorsqu'ils sont éloignés en Babylone, c'est lui qui va les faire traverser, même l'Euphrate, et par ce désert jusqu'à ce qu'ils arrivent sains et saufs à la maison, parce qu'il est celui qui fait ce genre de choses. il est libérateur. Ainsi, nous, le peuple de Dieu, nous nous rappelons en Romains chapitre 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et il nous a aimés. Et il nous aime. Il appartient, Israël, il est connu de Dieu, il est accompagné par Dieu, il appartient à Dieu. Et le langage qu'il utilise en parlant de rançon est un peu perturbant, j'avoue. Je donne Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ces autres peuples-là? Est-ce qu'ils ne vaut pas autant? C'est mal comprendre le texte. En fait, c'est une manière dont Dieu parle à son peuple souffrant. Oui, c'est vrai que grâce à Cambrès, le grand fils de Cyrus, qui a envahi et subjugué Égypte pour libérer finalement Judas. Oui, ces choses sont arrivées exactement comme il est dit. Je pense que on peut aller encore plus loin. Les plus anciens commentateurs comme Calvin ont souligné le fait que le salut change le statut de l'homme en lui donnant un statut honorifique. Avant que nous sommes rachetés, sauvés, comme il est dit en Éphésiens chapitre 2, nous étions tous morts à cause de nos péchés. Captifs du royaume de la mort et royaume de ce monde, rachetés, adopté, change de statut parce que nous changeons même de citoyenneté céleste. Nous appartenons à Dieu désormais et ça nous met dans une autre situation, une situation proche, une relation par alliance. Une alliance est plus qu'un contrat. C'est Dieu qui donne sa parole. C'est une relation permanente. Comme dit John Frame, connaître Dieu, c'est l'amitié. C'est-à-dire que par la grâce de Dieu, malgré tous leurs péchés, Dieu choisit de sauver Israël. Il élève leur statut de l'ennemi, banni, exilé, à ami de Dieu. Et il confirme son amour pour eux. Donc, il dit « Sois sans crainte ». Et la raison, c'est parce qu'il est là. « Je suis avec toi », il dit. Et puis, deuxièmement, il dit « Sois sans crainte, car je te rassemblerai ». Il parle de son plan. Et son plan sont bienveillants à leur égard comme pour nous. Ce n'est pas un plan pour nous perdre, nous faire perdre. C'est un plan pour nous sauver et nous libérer. Donc je reprends en Ésaïe 43, verset 5, et je continue jusqu'à verset 9. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta descendance et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au Nord, donne, et au Sud, ne retiens pas. Fais venir mes fils de loin, mes filles de l'extrémité de la terre, quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé, formé et fait. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle, alors qu'il a des yeux, et les sourds, alors qu'ils ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples s'amassent. Qui d'entre eux annoncer ces choses, lesquelles nous ont appris les premiers événements, qu'ils produisent leurs témoins et qu'ils se justifient, qu'on les entende pour dire c'est vrai. Tu dis, sois sans crainte, parce que je te rassemblerai. Il le rappelle de leur avenir, pas l'avenir voulu par les Perses, pas l'avenir voulu par les ennemis, leurs ennemis ou les ennemis de Dieu, mais l'avenir par Dieu lui-même. Donc la réalité des choses. C'est-à-dire, les ennemis veulent bien projeter ou proclamer un avenir désastreux selon son propre dessein malveillant. Alors que Dieu, c'est lui qui crée les cieux et la terre, qui parle et les choses entrent en existence, proclame un avenir réel, sans appel, l'avenir qui est sûr, l'avenir qui est à nous. Et voilà pourquoi on peut bannir cette peur. Dieu rassemble ses dispersés, il rappelle. Voilà une des grandes promesses envers Israël, une grande promesse eschatologique de Dieu envers Israël. Mais c'est très important pour nous aussi. En fait, la première fois dont il est question de ce grand rassemblement, malgré leur infidélité, se trouve en, peut-être surprenamment, c'est en Deutéronome, chapitre 30. Juste avant qu'ils vont entrer pour la première fois dans leur terre promise, Moïse projette ce qui va se passer. En fait, regardez, Deutéronome, chapitre 30. « Lorsque ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction » que je mets devant toi, si tu prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura banni. Je vous rappelle, ils ne sont même pas entrés dans leur pays et il est en train de parler de cet exil. Verset 2. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ai ordonné aujourd'hui. Alors, l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura disséminé. Dieu est en train de dire que, malgré les apparences, il ne va pas rejeter Israël. En fait, on peut même voir ça peut-être dans une autre place qui est encore plus frappant, là où le Seigneur le dit d'une manière qu'on ne peut pas se tromper. C'est en Jérémie 31, un passage qui est connu par l'Église pour l'annonce de la nouvelle alliance que nous venons de célébrer lors de la Sainte Cène. Mais regardez ce qui est dit après avoir parlé de ces merveilles en Jérémie 31, verset 35. Ainsi parle l'Éternel qui donne le soleil pour éclairer le jour, les phases de la lune et des étoiles pour éclairer la nuit, qui soulève la mer, qui fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent de cesser devant moi, oracle de l'Éternel, la descendance d'Israël aussi cessera pour moi toujours d'être une nation devant moi. C'est-à-dire tant que le soleil brille sur cette terre, tant que les saisons continuent, hiver, printemps, été, automne, tant que Israël, l'Éternel se souviendra d'Israël. Il n'oublie pas. Et pourquoi est-ce que c'est important pour nous? Parce que c'est un exemple pour nous. Si ils sont rebelles et il ne va jamais les oublier, ni les lâcher pour toujours. Combien de plus pour nous qui sommes déjà entrés dans l'alliance conclue par le sang du Fils. Il ne va pas jamais vous oublier. Oui, mais on est pécheur. Oui, effectivement, c'est ça justement le point que je veux dire. Parce que c'est justement ça la grâce de Dieu. Parce que si ça pouvait se mériter, si vous pouvez, par quelque chose que vous avez fait, ou s'il y avait quelque chose en vous qui pourrait attirer l'œil pour qu'il vous aime encore plus, ce n'est plus la grâce. Mais la grâce est la grâce parce qu'elle est gratuite et parfaitement généreuse, qui descend du ciel vers nous. Un peuple qui ne le mérite pas, mais qui le reçoit. Donc lorsque Dieu parle de les rassembler en Deutéronome, nous savons que, effectivement, lorsqu'ils sont revenus dans leur terre, il restait toujours un peuple, un reste en Babylone, en Perse. Nous savons aussi que le peuple juif a immigré jusqu'en Chine, finalement. Aujourd'hui, il y en a peut-être autant, peut-être même encore plus du peuple juif en dehors d'Israël qui habite dans ce pays. Est-ce que donc c'était que du hyperbole? Est-ce que c'était juste une façon de parler pour magnifier combien il va faire ce chose? Il y a beaucoup qui le pensent, mais je trouve très intéressant qu'après ce qui s'est passé, que Jésus reprend le même langage en Matthieu, chapitre 24, verset 31, lorsqu'il dit « Il enverra ses anges avec des trompettes retentissantes, ils rassembleront ses élus des quatre vents jusqu'aux depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Donc, il semble bien que Jésus avait envisagé aussi quelque chose que on voit encore plus clair, je trouve, en Romains, chapitre 11, verset 25, où nous lisons « Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un durcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et de telle sorte, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Est-ce que donc Dieu va, au bout d'un moment, tourner vers Israël comme s'il y avait deux alliances, et puis ce qui sont des gens qui suivent la loi, donc ça serait bon pour eux? Non. Parce que Jésus a très bien dit, je suis le chemin. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis la résurrection. Il a dit, je suis la porte. Jésus est le seul moyen d'entrer. De quoi on parle donc? Il paraît qu'à la fin des temps, Dieu va ouvrir les yeux de son peuple pour qu'ils puissent reconnaître leur Messie, pour qu'il revienne. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. Et tout cela est lié étroitement à sa grâce et son amour. Leur avenir est une raison de bannir la peur et le fait que l'Éternel ne va jamais les oublier est une raison pourquoi nous pouvons prendre courage. Il ne va pas nous oublier non plus. Nous sommes déjà en le bien-aimé. Nous sommes déjà ressuscités avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes déjà en lui. Les ennemis de Dieu peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est un peu comme ce que je dis à mes enfants quand ils ne veulent pas faire les vaisselles. C'est la même chose. Tu vas faire les vaisselles. L'Éternel va accomplir ses promesses, qu'on soit d'accord ou pas. parce qu'il est lui-même le garant. Versets 10 à 13. C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez. Nous nous rappelons que c'est Christ, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes mes témoins, oracle de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le reconnaissiez et que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura pas. C'est moi, moi qui suis l'Éternel. En dehors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès avant le jour fut, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Israël en rendra compte. Justement, quand ils sont revenus de leur captivité en Esdras 3, les rescapés, la première chose qu'ils ont fait, ils ont bâti un autel. Et puis, ils se sont remis à rebâtir les fondations du temple. Après, ils ont célébré l'Éternel. Mais la réalisation finale, c'est seulement entre les mains du Dieu souverain. C'est vous et mon serviteur que j'ai choisi. Afin que vous le reconnaissiez et que vous me croyiez, Israël reconnaîtrait Christ. Et c'est ainsi que nous, par la nouvelle alliance en Christ, nous rejoignons ses promesses. Christ est en nous, l'espoir de gloire. C'est l'Évangile. Nous lui appartenons aussi. Il demande que nous le suivions aussi par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, 6. En reconnaissant ce qu'il a fait dans le passé et ses œuvres actuelles sont aussi des sujets pour justement nous encourager. Comptez nos bénédictions. Comptez les choses qu'il fait pour nous. Mais vous savez, il oblige une réponse de notre part. Oui, la grâce de Dieu est gratuite et est généreuse. Mais à qui beaucoup est confié, beaucoup est attendu. Il accorde aussi des responsabilités à nous. Nous recevons de lui en plénitude et en grâce. Mais il demande que nous mettions notre foi en lui, que nous nous consacrions notre vie. Et est-ce que ce n'est peu de choses comparé à ce que lui, il a fait? L'Éternel seul est Dieu. Il est le seul. Les promesses de Dieu sont garanties par lui-même. Par ses attributs, par sa personne. Par exemple, il est le Tout-Puissant. Donc, il peut tout pour sauver. Il est omniscient. Donc, il connaît tout. Alors, il connaît nos difficultés. Il est omniprésent. Alors, il est tout prêt. Il est amour. Il a donné sa vie. L'Éternel est son nom, le nom Yahvé, qui veut dire celui qui est, qui était, qui le sera. Il est immutable, il est le même, il ne change pas. Donc, les mêmes promesses sont toujours actives. Et c'est ainsi que nous savons que nous ne serons jamais seuls. Il est le garanti de ses promesses lui-même. Et voilà pourquoi nous aussi, nous pouvons lâcher la peur. Car en conclusion, Dieu parle à Israël en tant que consolateur. Il répète, sois sans crainte. Et puis il leur dit pourquoi? Sois sans crainte parce que je suis là. Justement, avec sa présence qui est tout puissant pour vaincre tous les ennemis, pourquoi avoir peur? Aussi, en rappelant de leur futur, les dangers sont réels, oui, mais encore plus réels que les dangers, c'est l'avenir qu'il réserve pour nous. Parce que tout ce que nous voyons, même les dangers dans cette vie, nous savons que c'est temporaire, tout ce monde va passer, mais l'éternité ne passera pas. Puis, il se tient lui-même comme le véritable garant de toutes ses promesses. La peur, vue de cette manière, devient parfois une question de foi. Parfois, une question de perception. De foi parce que parfois on doute. Tout simplement, de perception parce que tout simplement on est tellement focalisé sur un truc qu'on oublie ce qui est autour. Ainsi que l'Éternel nous console dans nos craintes. Parce que c'est pas que nous l'avons aimé. C'est très important cela. Parce que si c'était tout basé sur nous et notre amour, tout dépend de nous et de notre amour. Et nous savons tous que on a des bons jours, on a des mauvais jours. Ben, il y a des jours où on ne s'aime même pas nous-mêmes. Alors, comment être constant dans son amour pour l'Éternel? Ah. Attention, je ne veux pas dire qu'il faut s'aimer avant d'aimer l'Éternel, ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous sommes aimés. Et nous sommes rachetés en lui. Parce que Christ est mort pour nous, il est avec nous. Et mieux encore, il vit en nous. Et la vie que nous vivons aujourd'hui dans la chair, c'est en lui. Et tout cela est en vue d'un espoir éternel. Alors soyez sans crainte. Puis, il est aussi le garant. Et ce n'est pas juste, il se tient en tant que garant en signant sa parole. Quelque part, il a signé sa parole lorsqu'il est venu sur notre terre en devenant un homme, en donnant sa propre vie pour nous, en ressuscitant lui-même pour payer cette dette que nous avons, que personne ne pouvait payer. Et voilà pourquoi un cœur changé, ancré dans l'amour parfait, qui n'a pas juste seulement le droit, mais la capacité de bannir la peur. Parce que il est aimé, elle est aimée par Christ qui s'est donné lui-même pour elle. Voilà qui nous sommes. Prions. Seigneur, merci. Qui est à la hauteur de ces choses-là? Personne, évidemment. Et nous ne voulons pas, parmi ceux qui vont vers l'effort et l'agression et pour vaincre la peur, ni avec cette mentalité zen qui est assez manquant au niveau du fond. Or, nous avons besoin d'entendre à nouveau et de vivre totalement cette vie évangile, tellement présent, tellement la bonne nouvelle dont nous avons besoin d'entendre encore et encore. Transforme-nous, Seigneur. Bannis la peur. Et remplis-nous aujourd'hui, maintenant, par ton Saint-Esprit. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen.